une nouvelle édition de l'économie en question. Nous sommes nous aussi à Blois. À Blois pour les rendez-vous de l'histoire où l'économie s'invite depuis quelques années. L'occasion de répondre à notre tour au thème choisi, au beau thème choisi pour cette année, partir. Sans surprise, nous, c'est en termes de migration que nous l'avons entendu. Plus de 1,5 million de demandeurs d'asile se sont présentés dans les pays de l'OCDE cette année. C'est un record. Et d'ailleurs, à propos de l'OCDE, nous reviendrons sur son récent rapport. Il en produit chaque année sur la question des migrations et de leurs impacts économiques dans nos pays. Cet afflux, bien sûr, de réfugiés, mais aussi de demandeurs d'asile que l'on appelle des migrants économiques, le terme est à discuter d'ailleurs, se produit, on le sait, dans un climat d'hostilité dans la population, hostilité croissante parce que crainte de saturation des services publics, peur d'un refus d'intégration de la part de ces populations. Et pourtant, il se pourrait aussi que l'on profite des multiples atouts des migrations pour nos économies et pour nos sociétés. C'est tout cela que nous parlons. Notre thème, migration et insertion, intégration, des enjeux économiques très forts pour le 21e siècle. Et je reçois donc dans notre studio improvisé à Blois, où se trouve un public que je remercie d'être venu, Pierre Dauquès, qui est présent donc à Blois. Pierre Dauquès, professeur émérite Lyon 2, spécialiste de la mondialisation. Il a notamment écrit sur le sucre. Et on verra qu'un autre de mes invités a écrit sur la pomme. Mais ça a son sens. On s'en expliquera. Pierre Dauquès, donc, El Mouhoud, très spécialiste lui aussi de ces questions d'intégration et de migration, professeur d'économie à Paris Dauphine. Et Sylvie Brunel, la pomme, c'est son ouvrage, professeur géographe et professeur également à Paris Sorbonne. Bienvenue à tous les trois. Et puis en toute fin d'émission, je leur ai demandé à chacun de venir avec un chiffre, si possible, hors de l'actualité dont nous allons parler. Ce sera notre toute dernière séquence, c'est bien l'économie en question, et nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. Et donc, cette question des migrations, partir, pour nous, c'est ainsi qu'il nous faut l'entendre. On a eu un débat, c'était hier soir à Blois, partir, revenir, rester. On a tenté de parcourir un petit peu les questions qui notamment touchaient les pays d'origine. El Mouhoud, vous étiez dans ce débat, vous avez fait l'amitié de revenir aujourd'hui. C'est un vrai sujet parce que si l'on est empêché d'entrer, on est également empêché de sortir. C'est à peu près la conclusion à laquelle nous sommes arrivés. Et vous, les économistes, vous avez évidemment des choses à dire à ce sujet.
Merci, bonjour. C'est l'un des paradoxes qui, beaucoup en économie et concernant en général les sciences sociales, c'est que les effets de l'émigration peuvent être gagnants pour les pays d'origine comme pour les pays d'accueil et les migrants eux-mêmes si les personnes sont en position d'être mobiles. Mais être mobile, ça ne veut pas dire être en situation de précarité, c'est-à-dire avec des contrats, des statuts de court terme, renouvelables, qui vous font tomber dans la trappe à la clandestinité, etc. Au contraire, ce que montre la littérature, les travaux empiriques d'économistes, mais aussi de sociologues, c'est que plus les gens ont des horizons longs, hein, ils ont des statuts, par exemple un permis de résidence à durée indéterminée, comme c'est le cas aux États-Unis, ou quand ils ont aussi la possibilité de porter leurs droits, comme l'a proposé la Commission européenne. Par exemple, vous avez une autorisation d'absence pendant 5 ans, et cette durée de 5 ans vous autorise à conserver vos droits. Donc vous allez, vous revenez, vous prenez des risques, vous investissez dans les pays d'accueil, vous investissez dans les pays d'origine, vous créez des activités, de la formation, etc. Donc ça, c'est vraiment un phénomène tout à fait intéressant. La mobilité, c'est pas la précarité des situations, c'est au contraire la stabilité et la durabilité des statuts.
Ça, c'est une introduction. Effectivement, c'était le thème dont nous avons très, très largement débattu hier soir. Si on va un petit peu plus loin, nous, on voudrait parler aussi de la question de l'intégration. C'est un autre versant. Pierre Dauquès, peut-être sur ce thème sur lequel on peut rappeler quelques données importantes.
Mais ça permet de rebondir sur ce que vient de dire Moub. Parce qu'effectivement, si on prend les différents pays de l'OCDE, puisque les derniers rapports dont Dominique parlait sont sortis récemment, et si on prend les séries d'ailleurs, on s'aperçoit
c'était
que la France...
C'était en septembre dernier, oui.
Oui, on s'aperçoit que la France est très mal placée de ce côté-là. On prend pratiquement tous les critères. D'abord, l'accueil est mal fait. C'est un premier point, mais au-delà de l'accueil, quand on prend les données sur, par exemple, la pauvreté, si on prend la pauvreté et le seuil de pauvreté, on s'aperçoit que les immigrés sont en France 30%, par exemple, au-dessous du seuil de pauvreté, alors que les nationaux sont moins de 13%. Un des points aussi qui est particulièrement crucial en France, c'est l'enseignement. L'accent a été mis récemment sur ces phénomènes et la France est un des plus mauvais élèves qui soit. Pour prendre un chiffre, si on prend un enfant d'immigré, il a 10 fois moins de chances qu'un enfant de nationaux de devenir un élève excellent. Dans les autres pays de l'OCDE, en moyenne, c'est 2 fois moins. Vous me direz, c'est déjà terrible, mais 10 fois moins, ça prouve qu'on a un système scolaire qui est très fortement ségrégé. D'ailleurs, on le sait aussi par les travaux sur les inégalités, en général, comme ceux de Piketty, bien sûr. Alors, il ne faut pas dire que tout est catastrophique en France quant à l'accueil des immigrés, mais il y a des points qui sont positifs. Un des points positifs, c'est la santé.
On a accès un système à la santé, bien sûr.
Et c'est très important. Le logement, on n'est pas trop mal classé non plus. Mais bien sûr, il faut comprendre pourquoi c'est particulièrement important d'accueillir bien les immigrés. Et ce qu'a dit Moub tout à l'heure, ça m'amène à parler d'un point qui fait partie de l'intégration, c'est la sécurité. On voit toujours la sécurité d'une certaine façon, mais en réalité, ce qui est important, c'est la sûreté et la sécurité des immigrés qui leur permet d'avoir une vie pleine et, bien entendu, d'être particulièrement utile. Il faut bien se rendre compte que pour les économistes, mais on en parlera, c'est le consensus des économistes, il faut être clair, l'immigration est un phénomène positif. Et quand on raconte des histoires comme les immigrés viennent prendre le travail des Français, accroître le chômage, réduire les salaires, augmenter le coût dans les comptes sociaux... C'est faux. On y reviendra, mais c'est très important de bien situer les choses. Le point essentiel, c'est que l'immigration, pour un économiste, c'est comme l'augmentation démographique. Et la démographie positive, c'est quelque chose de très important, aussi bien quant à la croissance potentielle, puisque, disons, le facteur travail augmente, que pour la demande.
Sylvie Brunel.
Oui, ce qui est important, c'est de constater que le phénomène de la mondialisation des travailleurs est devenu particulièrement fort depuis la fin de la guerre froide. Il y a 100 millions de plus de personnes qui ont quitté leur pays durablement depuis la fin de la guerre froide pour s'installer dans un autre pays. On considère qu'il y a aujourd'hui environ 244 millions de personnes qui vivent durablement hors de leur pays d'origine. Ça représente pas beaucoup par rapport à la population mondiale.
Pensons à la population mondiale, c'est quand même infime.
C'est 3,5% de la population mondiale. Mais en même temps, ces personnes ont un impact économique puisque on considère que ce qu'on appelle les transferts pour les économies d'accueil et les transferts notamment de fonds des pays qui sont envoyés dans les pays,
d'origine
s'élève à plus de 600 milliards de dollars. Et c'est un chiffre qui est important parce que cela veut dire que localement, ces régions, en bénéficiant de ces fonds, peuvent permettre à d'autres personnes de rester sur place. C'est-à-dire des personnes qui elles-mêmes auraient été conduites à la migration grâce à cette irrigation qui d'ailleurs est parfois préjudiciable au migrant qui est installé parce que lui-même se prive beaucoup pour renvoyer au pays, mais cela permet à un certain nombre de régions, au Sahel, en Inde, aux Philippines, eh bien de pouvoir bénéficier de ces flux qui sont un facteur de consolidation locale. Oui. Et ça, on l'oublie souvent.
En même temps, Moël Mahmoud, on a fait aussi d'autres travaux. C'est complexe, hein, ces questions-là. Et encore une fois, nous sommes nous sur le terrain économique. Hein. On connaît, je l'ai rappelé en commençant, les craintes, les difficultés d'intégration et les réactions assez négatives dans les populations qui sont plutôt en augmentation. Mais ce lien entre le co-développement, finalement, hein, entre l'apport des transferts financiers vers les pays d'accueil, les pays d'origine en provenance des pays d'accueil, est-ce qu'il est vraiment établi? Est-ce qu'on est certain que si l'on développe les pays d'origine, on va complètement freiner les migrations? Pas si simple que ça.
Non, alors il y a deux choses différentes. Hein. D'abord, il y a la question de savoir si la migration a augmenté. En valeur absolue, évidemment, comme ça vient d'être dit, ça a augmenté. Relativement à la population mondiale, c'est 3,5%. Ça a été aussi rappelé par Sylvie Brunel, mais au 19e siècle, c'était deux fois plus par rapport à la population mondiale. Donc, si vous voulez, il n'y a pas réellement une pression migratoire, comme on peut le dire, puisqu'en fond, la population mondiale croît très très vite, et donc, finalement, la part des migrants par rapport à cette population reste relativement limitée. Il y a un paradoxe aussi intéressant, c'est que il y a cinq composants de la mondialisation. Vous avez le commerce, les investissements directs étrangers, les multinationales, hein, la finance, les technologies et les connaissances, et vous avez les migrations internationales.
Et les hommes.
Et les migrations de travailleurs. Et il y a un très grand paradoxe, c'est que toutes les autres composantes de la mondialisation se sont libéralisées considérablement. En 1960, le commerce mondial dans le PIB mondial, ça représentait 10%, et ça représente 30% aujourd'hui. Donc ça a augmenté considérablement, vous voyez. Donc si je compare, en 1960, les migrations internationales dans la population mondiale, c'était 2,5%. Et aujourd'hui, on l'a dit, 3,5%. Donc ça n'a augmenté que d'un point. Tandis que le commerce mondial dans le PIB mondial était multiplié par 3. Donc, vous avez vu, c'est quelque chose qui est assez intéressant. C'est pareil pour les investissements directs. Et pourtant, donc, les migrations connaissent des restrictions considérable dans leur liberté de circulation. C'est la composante la plus restreinte historiquement. On le voit par rapport au 19e siècle, comment ça a baissé. Pourtant, les effets en retour qui viennent d'être soulignés des migrations internationales sont bien plus importants que ceux des autres composantes de la mondialisation. Donc il y a des effets effectivement sur la pauvreté, le consensus des travaux d'économistes, qui sont des travaux très précis sur données individuelles, sur des données d'enquête, qui sont multipliés autant qu'on en veut, autant de pays que l'on souhaite, qu'on l'on puisse aussi faire, eh bien montre qu'il y a un effet de réduction de la pauvreté transitionnelle, transitoire, si vous voulez. Les enfants peuvent aller à l'école au lieu d'aller au travail. Donc il y a des effets tout à fait positifs. Il y a aussi des transferts immatériels de plus en plus importants, des normes sociales, sanitaires.
Des effets, par exemple, sur la fécondité dans les pays d'origine, ce genre
donc, tous ces effets sont bien documentés aujourd'hui. Donc on a des effets tout à fait importants. Sur le plan macroéconomique, les effets sont plus ambigus. Il y a des pays pour lesquels les transferts d'argent dans le PIB, ça peut représenter 10, 15, 20% du PIB. Et ça peut avoir des effets pervers de type, comme un peu le syndrome hollandais d'une théorie économique qui dit ça, c'est-à-dire quand vous avez beaucoup de revenus qui te proviennent du gaz ou des hydrocarbures, ça peut déstructurer votre production et diminuer les exportations, etc. Il peut y avoir quand même des effets pervers au niveau macro, mais le constat, le consensus, c'est que ça a des effets tout à fait positifs en termes de réduction de la pauvreté. Alors, je termine là-dessus. Le dernier point, c'était sur votre question.
Est-ce que ça arrête la mobilité finalement?
Non. Parce que là, il y a aussi une croyance, d'ailleurs qui provient de la théorie du commerce international. Hein. Il y a une vieille théorie du commerce international qu'on doit à Mundell en particulier, qui dit bien, si on ouvre les échanges commerciaux, on libéralise complètement les échanges, vous supprimez les barrières douanières, les barrières non tarifaires, etc., ben, les marchandises remplacent la mobilité des facteurs de production, c'est-à-dire des hommes comme du capital. Donc, en d'autres termes, les gens n'ont pas besoin de bouger puisqu'ils seraient employés sur place. Ça, c'est fou. C'est fou. Les travaux empiriques montrent qu'il y a une relation de complémentarité entre la mondialisation et les migrations internationales. Bah, c'est simple. Les migrants ne viennent pas des pays pauvres. Ils viennent des pays à revenus intermédiaires parce que émigrer, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça coûte très cher. Et, oui. Et donc, ça crée des effets de sélection. C'est les plus qualifiés qui peuvent partir. C'est les gens qui viennent des pays relativement riches qui peuvent partir relativement riches.
Et donc,
ces
pays-là, les pays à revenus intermédiaires, qui en profitent finalement dans les retours et dans les transferts financiers.
La fuite des cerveaux, etc.
Autre aspect de partir que nous n'avons pas encore mentionné, je sais que Sylvie Brunel y est très attachée, partir aussi pour des causes de changement climatique. Et là, on en entend tous parler depuis déjà beaucoup d'années. Et on commence quand même enfin à en prendre la mesure. Sylvie Brunel, vous avez travaillé sur cette question. Et là, on peut s'attendre à des mouvements migratoires très forts dans les années à venir.
Alors, c'est un phénomène qui est difficile à quantifier. Parce que autant quand il y a une catastrophe, un tsunami, un séisme, les gens vont se déplacer. Mais souvent, ils vont revenir.
Ils vont se déplacer près de chez eux.
Et ils vont se déplacer près de chez eux. Mais vous avez des situations où la dégradation continue des milieux de départ va conduire les gens à concevoir un projet de départ, pour résumer, soit parce que les sols se sont abîmés, se sont dégradés, soit parce que le facteur eau, que ce soit les inondations, la montée des mers pour les îles par exemple, fait que ça devient de plus en plus difficile de construire un avenir durable, soit parce que le climat, alors c'est-à-dire qu'on parle beaucoup par exemple de la multiplication des ouragans, vous avez vu Matthew qui est revenu frapper Haïti qui avait déjà subi le séisme de 2010. En même temps, c'est un phénomène qui est très difficile à évaluer dans les relations internationales, parce que finalement, on va partir parce qu'il va y avoir tout un enchaînement de facteurs. Il n'empêche que certaines régions sont plus touchées que d'autres. Quand vous avez des zones de repli dans les estuaires, dans les grands deltas, vous pouvez reculer. Quand les États accompagnent par des phénomènes d'adaptation, adaptation des territoires, par exemple à Miami, vous avez aujourd'hui, quand vous voyez les côtes à Miami, le premier étage, le rez-de-chaussée n'est plus habitable. C'est-à-dire que les gens, les immeubles sont d'abord reculés par rapport au front de mer, on fait des dunes littorales, et puis en plus, on n'utilise plus le rez-de-chaussée. Les gens passent au premier étage. Comme ça, s'il y a un événement marin fort, les gens sont protégés. Donc, il y a tout un tas de mécanismes d'adaptation. Mais, même si ce phénomène des migrants environnementaux n'est pas aujourd'hui reconnu géopolitiquement...
Les Nations Unies, hein, je le rappelle, puisque, le terme n'est pas reconnu. Migrants écologiques, ça n'a pas pour
mais
l'instant...
Mais on l'a abordé lors de la
définition acceptée.
Et puis les îles tropicales demandent par exemple qu'on finance des fonds d'adaptation. Donc on estime à peu près que chaque année, il y a 25 millions de personnes qui sont déplacées par des événements brusques. Mais le phénomène de partir parce qu'on est trop pauvre désormais pour vivre dans un environnement dégradé, ça relève... à ce qui rentre dans les migrations de travail, et sur les 244 millions de personnes qui vivent hors de leur pays d'origine, on considère qu'il y a à peu près 150 millions de personnes qui sont parties pour des raisons purement professionnelles, des migrations de travail. Et ce que disait tout à l'heure mon collègue, c'est intéressant, au début du XXe siècle, c'était les Européens qui partaient, donc c'est sûr que la question de leur intégration ne se posait pas tellement. Ils allaient peupler le monde, ils sont
encore
allés
que
partout, mais bon, en même temps, ils étaient beaucoup plus acceptés que les migrations du sud vers le nord. Et les migrations du sud vers le nord, c'est encore 45% des migrations. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus de migrations sud-sud, c'est-à-dire des gens qui partent non pas... Vous voyez, moi, je vais très souvent à Abu Dhabi, bah, vous voyez des gens qui vont, qui n'ont pas aucune envie d'aller en Europe. Ils vont à Abu Dhabi, ils vont à Oman, ils vont parce que c'est là qu'ils veulent vivre. En plus, c'est proche géographiquement de leur région d'origine, ouais, qui est l'Asie du Sud.
Pierre Dogues.
À part, il y a ce problème des migrants qui sont en quelque sorte forcés par des catastrophes ou par une extrême pauvreté. Ça, c'est un point. D'autre part, il y a des réactions qui sont souvent négatives dans les pays d'accueil. Bon, c'est pas seulement Sud-Nord, c'est aussi, comme on l'a vu avec le Brexit, c'est aussi, par exemple, Est-Ouest. Donc, c'est pas le problème. Ce qu'il faut noter, c'est que le résultat de cela, c'est qu'on a tendance à voir la migration comme quelque chose de négatif. Or, pour les économistes, il en va du facteur travail comme du facteur capital. Il faut bien se dire ça. Donc, plus il y a de mobilité, plus on se rapproche d'un optimum. On a intérêt à ce qu'entre secteurs, entre régions, dans l'espace national comme dans l'espace mondial, il y ait des mouvements d'hommes comme il y a des mouvements de capitaux qui vont vers les régions.
Ou de biens.
Ou les biens, bien entendu. Donc ça, c'est le point fondamental. Indépendamment de ça, évidemment, il y a des réactions individuelles. Mais... Et en plus, c'est coûteux, bien sûr. Je pense donc, si on prend le père de l'économie politique, Adam Smith, il disait en le regrettant, rien n'est plus difficile que de déplacer les hommes. Et une grande partie de ses travaux, déjà à l'époque, portait sur les moyens d'accroître ces déplacements. Alors comprenons bien qu'avec la facilité accrue des transports, l'information, les déplacements, les changements ont été du type au cours du temps long. Les gens avant immigraient de leur village vers la ville, puis d'une région vers le centre, vers la capitale. Les Bretons, les Auvergnats, les Aveyronnais arrivaient à Paris. Eh bien, tout naturellement, les frontières nationales sont pas des murs. Maintenant, aujourd'hui, les migrations se font à plus grande distance. Alors, il y a une exception que vous avez signalée et qui est très importante. C'est ce qui s'est passé à la fin, à partir du milieu du 19e siècle, c'est l'ouverture du monde qu'a été les États-Unis, qui a créé un appel d'air absolument formidable et qui a fait qu'il y a eu un mouvement de migration comme on n'en a jamais retrouvé.
Alors je reviens sur ce rapport de l'OCDE que nous avons mentionné à plusieurs reprises, le chapitre, la section des migrations, qui insiste une nouvelle fois, hein, Jean-Christophe Dumont, son directeur actuel, la contribution à l'économie des migrants est supérieure à ce qu'ils reçoivent. Ça aussi c'est un grand débat, hein, en termes de prestations sociales, de dépenses publiques, c'est extrêmement débattu, y compris bien sûr sur le plan politique. L'OCDE reconnaît bien entendu, surtout dans ces dernières années, ces derniers mois, que c'est extrêmement coûteux à court terme, ça peut être en tout cas coûteux à court terme, il ne faut pas non plus leurrer, l'arrivée massive nécessite des structures d'accueil, de l'organisation, mais redit encore une fois qu'à moyen et long terme, et ça rejoint tout ce que vous venez de nous expliquer, les recommandations des mesures d'intégration renforcées, c'est-à-dire, je vais sur ce que nous a dit Pierre Dogues en commençant, peut-être augmenter les dépenses en éducation et en formation linguistique, extrêmement important, la question de la langue. Et plusieurs pays ont déjà réduit également les délais pour l'entrée sur le marché du travail. Là aussi, c'est une piste évidemment pas facile à faire passer sur le plan politique, mais qui, d'après l'OCDE, qui s'appuie évidemment sur de nombreux travaux mentionnés déjà, c'est une bonne condition pour un accès anticipé évidemment au travail et donc à une bonne intégration, évaluation des compétences et tout ce qui va avec. Quant à la démonstration du lien entre l'immigration et le chômage, pour beaucoup d'économistes, mais là je crois que tout le monde n'est pas forcément sur cette ligne, je cite notamment Thomas Gadjos du CNRS, le lien n'est pas démontré. Helmut.
Écoutez, je crois qu'il faut faire un tout petit peu de pédagogie pour savoir comment font les économistes pour évaluer l'impact de l'immigration sur le marché du travail et sur la protection sociale. Pour savoir comment on s'y prend. Parce que si on n'explique pas, on a l'impression qu'on peut tout dire. Là aussi, effectivement, comme vous venez de le dire, il y a un consensus. L'effet sur le marché du travail de l'immigration, ça c'est le premier consensus, est d'une amplitude extrêmement faible. Mmh. Amplitude extrêmement faible. Ça c'est le premier résultat sur lequel tous les travaux des économistes s'accordent en France, en Allemagne, aux États-Unis. L'effet est très faible. Pourquoi ? Ben parce que, si vous voulez, la part de l'immigration dans le marché du travail, c'est très faible. Vous savez combien on reçoit d'immigrants par an ? 200 000. Combien repartent ? 100 000. Sur les 100 000 qui restent, en quelque sorte, vous en avez 20 000 qui sont des migrations de travail. Okay. Là, il y a eu un choc des réfugiés. La France n'en a presque pas reçu, puisqu'on va arriver à 35 000 au total. 35 000 réfugiés protégés, c'est un par commune. Vous savez, nous avons 36 000 communes, donc c'est un par commune. Nous avons les moyens d'intégrer ces 36 000 communes contre 800 000 en Allemagne. Donc, l'effet...
Et en Suède, plus de 2% de la population.
Si vous voulez, la hausse dont vous avez parlé tout à l'heure des réfugiés, c'est concentré sur très très peu de pays. La Suède, effectivement, l'Allemagne... la Hongrie, et c'est ça d'ailleurs le drame de ce phénomène, parce que 1,2 million de migrants qui arrivent, de migrants par économique, hein, des réfugiés, parce qu'ils sont partis à cause des conflits en Syrie, et pas seulement en Syrie d'ailleurs, en Érythrée, il y a 15 conflits dans le monde là depuis les 5 dernières années qui expliquent ces mouvements, et ça on est capable de les absorber si on les répartit correctement. Alors je reviens juste sur les effets. Comment on s'y prend ? On regarde... aujourd'hui, on a des données très très précises. On a des données sur les entreprises, très exhaustives. Et les entreprises sont obligées de déclarer les caractéristiques sociales de leurs travailleurs. Ce qu'on appelle les données de déclaration sociale. Nous, on les exploite. Et donc, on regarde quel est l'impact de l'immigration sur les salaires et l'emploi des autochtones. Et qu'est-ce qu'on observe ? Et vous reproduisez ces données comme vous voulez, vous retrouvez le même résultat. On observe un effet positif sur les salaires des autochtones. Alors comment vous expliquez que des immigrants qui arrivent jouent positivement sur le salaire des autochtones? Ben, c'est très simple. Quand vous décomposez le travail par catégories socioprofessionnelles, ouvriers, techniciens, ingénieurs, mais aussi que vous les décomposez à l'intérieur par tâches portées par les travailleurs. Ce qui se passe, c'est que les immigrants vont, catégories socioprofessionnelles par catégories socioprofessionnelles, occuper les tâches les plus routinières et les plus pénibles, les plus difficiles, les moins rémunérées, et les natifs peuvent aller vers les tâches les plus rémunérées. Donc, ce que montre l'économie, c'est qu'il y a une relation de complémentarité entre les migrants et les autochtones en matière d'effet sur les salaires. L'effet, dans les travaux les plus récents, dont vous pouvez sur le site de l'émission probablement trouver les sources, sur les travaux les plus récents, c'est un effet positif en France de 3 à 5% pour les salaires des autochtones.
Oui,
Pierre Dauquès, les derniers mots.
Je voulais intervenir sur ce point. Il faut faire une différence entre les catégories de migrants, parce que les migrants se caractérisent soit en étant très peu qualifiés par rapport au reste, soit en l'étant super qualifiés. Or, ceux qui sont en quelque sorte bénéfiques au salaire des nationaux, c'est surtout ceux qui sont peu qualifiés. C'est moins net pour ceux qui sont très qualifiés. Je crois que c'est important de bien voir que l'ensemble, des migrants sur ce point ne correspond plus aux images qu'on se fait ou qu'on se faisait. Ils sont de plus en plus qualifiés et ça c'est très très net et c'est encore plus net dans les autres pays de l'OCDE.
Eh bien, merci à tous les trois pour tous ces éclairages. On aurait pu vous écouter encore. Vous nous apprenez beaucoup de choses et peut-être combattez aussi certaines idées reçues. J'ai encore un petit peu de temps pour vous demander votre chiffre. Mais très peu de temps. Sylvie Brunel.
40 millions de tonnes. 40 millions de tonnes, c'est la production de pommes en Chine. Effectivement, vous l'avez dit, Dominique Rousset.
Tous les chiffres sont bons à l'économie en question.
Un livre qui s'appelle Croquer la pomme. Pourquoi? Eh bien, parce que quand vous êtes pauvre, quand vous avez faim, vous n'allez pas manger des pommes, vous allez manger des céréales, des tubercules. Mais quand vous commencez à faire partie des classes moyennes, eh bien vous devenez un consommateur de pommes. Et la production de pommes a explosé grâce à cette moyennisation du monde. Le Vietnam, le Bangladesh sont de plus en plus des grands consommateurs de pommes. Et la pomme, ça veut dire fruit paisible. Vous voyez, le fruit de la mondialisation. Le problème, c'est qu'en France, nos producteurs de pommes sont tellement attaqués que nous sommes en train de perdre nos vergers. Vous voyez, le monde entier demande des pommes et nous perdons nos pommiers.
Merci Sylvie Brunel. Croquer la pomme, son tout dernier livre chez Lattès, l'histoire du fruit qui a perdu le monde et qui le sauvera quand même. Bien, Pierre Dauquès, votre chiffre.
Je vois que vous êtes chiracienne. Bon, je suis.
La pomme, c'est toujours une histoire qui marche. Chirac a été élu grâce aux pommes.
On ne dit pas de politique ici.
Oh ben, rien n'empêche Macron de se mettre des pommes dans ses paniers.
Pierre Dauquès, il nous reste une minute.
Une seconde pour dire le nombre de niches fiscales en France, c'est 500. Et le nombre...
500 différentes niches, oui, c'est vrai.
Oui, oui. Et le nombre n'a pas diminué, il a au contraire augmenté encore de 14.
On a le temps, Elmoub,
oui,
mais vraiment deux secondes.
1,3%, la croissance française décevante par rapport aux prévisions, qui était de
1,5. On espère
mieux. Quelque chose qui va faire plaisir aux entreprises, 31,8%, le taux de marge, contre seulement 33,1% en 2008. Donc progression des marges, mais malheureusement, une croissance qui reste atone.
Merci encore à tous les trois, El Moumoud, qui va faire paraître l'immigration en France. Je vous le recommande, des travaux qui reprennent beaucoup de ce qu'il nous a dit aujourd'hui. Merci à notre petite équipe, Laetitia Koya, qui réalise l'émission ici à Blois, et toute l'équipe, Christophe Goudin, Jean-Pierre Pernel, Benjamin Thuo et Roland Dandalex. Merci à tous. Laurence Genepin à Paris pour la préparation, la documentation. Venez nous retrouver sur Twitter si vous le souhaitez. Et puis, je voudrais aussi signaler le hors-série. Je le montre au public qui est devant nous. Série avec le monde, partir bien sûr, avec d'autres termes, conquérir, quitter, fuir, s'exiler, voyager et découvrir. Merci à tous, à samedi prochain.